France Inter, le 18-20.
La scène se passe hier après-midi au secrétariat d'État à l'égalité homme-femme. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, affiche sur la porte de son bureau les noms de deux entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'égalité homme-femme, les bonnets d'âne en quelque sorte. Alors vous n'avez probablement pas beaucoup, jamais même entendu parler de ces boîtes, mais elle s'appelle le Sartorius Stedim Biotech qui fait de l'équipement pour industrie pharmaceutique. Elle s'appelle Morel & Prom qui produit des hydrocarbures. Et pendant ce temps, d'autres mauvais élèves mais qui jouent mieux le jeu de l'égalité homme-femme ont accepté de prendre un cours d'égalité au ministère, une manière de sensibiliser ces gens comme si ils avaient perdu leur point en permis de conduire et qu'il s'agissait de les récupérer. On parle de féminisme, de féminisation, après tout c'est pareil, on parle aussi d'égalité professionnelle. Name and shame, comme disent les anglo-saxons, est-ce que c'est ça la bonne solution? Pourquoi pas? Après tout, à qui la faute également? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelle responsabilité des chefs d'entreprise dans ces inégalités qui persistent? N'est-ce pas aussi notre organisation, celle de la société qui reste archaïque et qui nous concerne? Le téléphone sonne et votre émission, et on vous y attend.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et la première, c'est vous, Annick. Bonsoir, bienvenue sur Inter.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute, Annick.
Alors, merci de prendre mon témoignage. Donc moi, je suis cadre dans un grand groupe européen de l'aéronautique et du spatial.
Donc, je vois à peu près de quoi vous parlez.
C'est ça. J'ai un poste à responsabilité, donc je ne peux pas vraiment me plaindre de ma condition. Mais j'ai été extrêmement choquée l'année dernière quand j'ai reçu de la part des syndicats de mon entreprise, des grilles de salaire. Alors les grilles de salaire, c'est pour toutes les catégories socioprofessionnelles, hein, du technicien au cadre sub dans les grandes sphères de l'entreprise. Mm-hmm. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est pas forcément la différence de salaire pour les premiers niveaux d'entrée, mais c'est vraiment la différence de salaire au niveau des postes à responsabilité. Déjà, il y a très peu de femmes. C'est une entreprise qui est dirigée principalement par des hommes. Et ces hommes-là, quand il y a des femmes, ils vont jusqu'à des salaires 5 fois supérieurs à ceux des femmes à poste équivalent. Et ça, souhaitant faire une carrière et a fortiori dans le groupe dans lequel je suis, je peux vous dire que ça m'est resté un peu en travers de la gorge.
Est-ce que ça veut dire, Annick, que vous avez vu aussi du coup sur cette feuille des gens qui faisaient le même travail que vous et que vous avez pu comparer vos deux salaires ou pas?
Oui.
Et alors?
Disons que... Alors, le chromosome joue quand même. Hein.
Ouais. Et par curiosité, avant que vous répondiez, vous avez fait remonter ou pas, ou au moins votre étonnement, si ce n'est autre chose?
Alors, auprès de mes collègues, oui, auprès de ma hiérarchie également. Mais en fait, la réponse semble être assez... Alors déjà, c'est un milieu qui est très masculin, mais la réponse semble être assez générale. C'est de dire, bah oui, mais rends-toi compte, les femmes, elles ont 1, 2, 3 enfants. Et pendant ces années-là, bah, ok, t'as pas d'avancement sur ton salaire hein, parce que t'es en congé maternité. Donc, t'as pris une petite assiette dessus. Et c'est une des raisons, je pense, pour lequel aujourd'hui, les femmes et les hommes ont une grosse disparité de salaire qui évolue... À travers leur carrière, quoi.
Et qui évolue effectivement très lentement. Annick, merci beaucoup pour ce témoignage. Et pour vous répondre, autour de la table, au téléphone sonne ce soir. Annick Grézy, bonjour. Vous êtes, bonsoir d'ailleurs, Brigitte, pourquoi je vous appelle Annick? Annick, c'était l'auditrice. Vous êtes secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Et Raphaël Rémy Leleu, là c'est bon, c'est le bon prénom. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Je vais commencer par vous, Brigitte Grézy. Intéressant ce témoignage d'Annick, parce qu'effectivement, elle est haut dans la hiérarchie, Annick. Et elle regarde les cadres de les salaires de ses amis cadres autour d'elle. Et effectivement, c'est là que le bas blesse, en fait.
Absolument. Les écarts de rémunération qui sont en moyenne de 25%, hein, en moyenne brute annuelle, s'accroissent avec l'âge, s'accroissent avec le diplôme et s'accroissent aussi dans certains secteurs. Donc aujourd'hui, la différence est de l'ordre de 22% à peu près pour les personnes, les cadres, les hauts niveaux de cadres. Alors ça, c'est un des éléments sur lesquels il faut vraiment agir très très fortement. Et je crois que précisément dans le cas de cette personne, il y a vraiment la question éventuellement d'une discrimination indirecte, c'est-à-dire un salaire égal pour un travail de valeur égale. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement ceux qui sont à son niveau de responsabilité, s'ils sont payés vraiment 5 fois plus cher qu'elle, qu'est-ce qui s'est passé dans leur carrière. Et là, il y a quand même des soupçons de discrimination.
Annick, pardon, j'ai une curiosité. Est-ce que vous auriez envie de regarder plus loin et de regarder s'il s'agit de discrimination, ou est-ce que précisément vous vous dites, moi j'ai envie d'avancer dans cette boîte et donc pour l'instant je fais pas de bruit?
Alors la réponse 2. Ouais. Mais non, après je pense que c'est pire que ça. C'est pas de la discrimination dans le sens où Quelqu'un a dit un jour, ah, c'est une femme, elle va pas avancer. C'est tout un tas de toutes petites choses, de préjugés, de mesquinerie et un environnement qui fait que, bah, t'es une femme, t'as pas fait la bonne école, pas forcément mon cas, mais en général, hein, et ben, ça va pas le faire. Parce que c'est comme ça.
Brigitte Grésy, juste pour finir, et je voudrais entendre évidemment Raphaël Rémy-Leleu aussi, les gens qui sont autour d'Annick, est-ce que ça veut dire qu'ils ont grimpé plus vite qu'elle, ou est-ce que ça veut dire que de toute façon, quand on est un homme et quand on rentre dans une entreprise comme ça, on rentre à un plus haut grade, un plus haut niveau de salaire, quoi qu'il en soit,
à qu'une femme à son même poste. À tous les niveaux de la carrière, il y a des éléments qui favorisent la montée des hommes et qui défavorisent la montée des femmes. Donc ça, que ce soit au moment du décrochage des congés de maternité, que ce soit au moment des promotions, à tous les niveaux, il y a ce jeu, et Madame Annick l'a très bien dit, de ce qu'on appelle le sexisme, c'est-à-dire fondé sur des stéréotypes de sexe, qui ne sont pas des mesures structurellement volontairement discriminantes, mais qui assoient ces discriminations sur tout un terreau de délégitimation, d'exclusion, de petits gestes. Les process RH ont des biais de sexe. Le système des classifications en entreprise, c'est-à-dire la pesée des emplois, et notamment les métiers majoritairement féminins, ont des biais de sexe. Donc, l'ensemble des éléments concourent à cet écart.
Raphaël Rémy-Leleu, c'est une sorte de sexisme qui porte son nom sans le porter, en fait, quelque chose d'entre deux, non ?
Justement, c'est important qu'on l'appelle par son nom, à savoir du sexisme, et ça qui est parfois difficile de se dire, c'est que je pense profondément que tout le monde n'en a pas conscience, que tout le monde n'a pas conscience de participer à un système sexiste, d'exercer de vraies discriminations, parce que ça prend des racines également très loin, c'est un véritable système qui va se retrouver à tous les niveaux. Une partie intéressante également de ce témoignage, c'est de se dire qu'Annick est dans l'aéronautique, c'est un secteur très peu féminisé, on va même retrouver des différences de salaire très importantes entre les secteurs, selon qu'ils soient en majorité masculins ou féminin. Ou encore, quand vous parlez, madame, de la raison d'avoir des enfants, finalement, c'est plus un prétexte qu'une raison. Et c'est une construction, en effet, de la valeur de la femme au travail qui est toujours jugée moindre parce que, quelque part derrière, il y a cette idée que l'important pour la femme, c'est le foyer, les enfants, la sphère de la vie privée.
Et qu'au fond, elle n'a pas envie de grimper, ou peut-être moins envie, en fait, c'est ça l'idée ?
Non, puisque ça revient sur des mécanismes très essentialistes, de dire que une femme est plus douce, moins apte à négocier, moins engagée dans son travail. Alors c'est sûr que c'est moins évident quand c'est aux femmes que revient la plus grande charge de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Brigitte Grésy, un mot, puis on va prendre une autre auditrice.
C'est-à-dire que les employeurs considèrent les femmes comme des agents à risque, c'est-à-dire qu'ils anticipent ces périodes de maternité et de soi-disant indisponibilité, parce qu'une maternité c'est quand même très prévisible, et donc les femmes sont jugées moins disponibles, moins flexibles, etc., même lorsqu'elles ne le sont pas, enfin même lorsqu'elles le sont.
C'est juste un a priori de départ.
Et voilà, c'est toute une sorte, comment dire, d'éléments qui collent à la peau des femmes quand elles arrivent et qui poussent à la baisse leur promotion, leur rémunération, etc.
Chloé nous appelle au 01 45 24 7000. Chloé, bonsoir, bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon intervention. Mon intervention est relativement similaire en fait à celle de l'auditrice précédente. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je trouve ça très intéressant de regarder ces chiffres et je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y pencher dessus. Mais quand je dis ça, ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de regarder dans les détails. Moi, je travaille dans une industrie très manufacturière, je suis cadre également. Et si on regarde les effectifs totaux de mon entreprise, je pense qu'elle fait figure de bonne élève, voire de très bonne élève. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur les chiffres et qu'on les analyse, je dirais, couche par couche de l'organigramme, on se rend compte que sur des métiers très précaires, sur des métiers très difficiles physiquement, sur les métiers qui peuvent provoquer des troubles musculo-squelettiques, etc., on va avoir 80% de femmes, voire même plus, et le reste d'hommes. Par contre, plus on monte dans la hiérarchie et plus on va vers des métiers qui sont très valorisants, de type des métiers très techniques, alors là, on est carrément sur l'inverse. On est plutôt sur 80% d'hommes et 20% de femmes. Et quand il y a des femmes, par exemple dans les métiers techniques, je me suis rendu compte que c'était essentiellement des stagiaires et des apprentis. Voilà, c'était ma remarque à propos de ces chiffres-là. C'était vraiment les regarder dans les détails qui pouvaient être intéressants, quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Chloé. C'est vrai, je voyais Brigitte Grésy et Raphaël Rémy-Leleu, d'ailleurs, qui est opiné du chef en vous écoutant, Brigitte Grésy.
Oui, aujourd'hui, prendre en compte la santé et la sécurité des femmes au travail est quasiment une nouveauté parce que ça n'était pas fait beaucoup. Et aujourd'hui, la loi impose de regarder l'impact différencié sur les femmes et sur les hommes d'un certain nombre de process, de conditions de travail. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a toute une série de choses qui ne sont pas prises en compte sur le travail des femmes, leur posture, etc. Donc, tout ça, ça joue tout au long de la chaîne, et les écarts de rémunération globaux ne veulent pas dire grand-chose. En fait, il faut regarder très en détail, et il faut regarder effectivement en fonction de l'âge, en fonction de la qualification, en fonction du déroulement de carrière, toutes choses qui sont inscrites dans la loi, mais qui ne sont pas forcément réalisées. Et c'est là qu'on peut arriver à faire des parcours différenciés d'hommes et de femmes, quand on prend l'entièreté de ces indicateurs dans l'appréhension du cas.
Raphaël Rémy, le chiffre derrière le chiffre, effectivement, et c'est ce que disait Chloé, c'est ça qu'il faut regarder avec plus d'attention, et c'est là qu'on voit pointer effectivement des inégalités qu'on voit peut-être pas dans une globalité.
Tout à fait, c'est la méthode d'analyse générale qui est importante quand on veut parler du monde du travail et du sexisme, c'est de réussir à le retrouver à tous les niveaux, selon le secteur, selon le parcours de vie, selon les responsabilités exercées, parce que finalement, même des zones d'attribution géographique peuvent, par exemple, beaucoup jouer dans une carrière, ce genre de choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit juste un bilan social d'entreprise présenté sans aller un peu dans le fond. C'est pour ça, je trouve que Chloé le dit très bien, c'est l'importance d'avoir des sources, des chiffres, des études sur la question de l'égalité des droits en entreprise, puisque c'est encore un droit social qu'on a besoin de construire. L'histoire des femmes et du droit du travail est loin d'être terminée.
On va écouter Martine dans un instant, mais ce que vous me dites m'inspire une question, Brigitte Grésier. Est-ce que les entreprises jouent le jeu, donnent leurs chiffres pour que justement, on puisse avoir de vraies statistiques, de vrais chiffres, de vraies tendances? Est-ce que c'est compliqué à aller chercher? Alors, faut le faire avec les dents ou pas?
Il y a seulement 40% d'entreprises qui ont signé un accord ou un plan unilatéral de l'employeur. Avec une petite obligation de transparence, ils doivent afficher sur le site de l'entreprise ou sur leur site internet trois indicateurs, rémunération, taux de promotion, etc. C'est rarement fait et, je veux dire, il n'y a pas possibilité de comparaison. Et c'est pour ça que les enjeux des indicateurs sont si forts. Mais en même temps, on sait que globalement, la mixité des emplois, c'est un leurre. C'est-à-dire, aujourd'hui, les métiers ne sont pas mixtes. Et ça, c'était vraiment le cas de notre auditrice. Oui. Les métiers ne sont pas mixtes, c'est-à-dire qu'on a à peine 12% des métiers qui sont dits mixtes, c'est-à-dire avec 40% d'un sexe donné. Donc, les métiers sont soit majoritairement masculins, soit majoritairement féminins. Et là, on voit comment, via le syndicalisme, via les classifications, la pesée des emplois, on a des pressions à la baisse du côté des métiers majoritairement féminins. Et le contraire de l'autre.
Martine, bonsoir Martine.
Bonsoir.
Et une question très intéressante qui est la vôtre, on vous écoute.
Oui, je voulais savoir comment allait réagir le monde masculin dans les entreprises lorsque les hommes prendront vraiment les congés de paternité longs comme ils en ont la possibilité maintenant. Ils vont pouvoir goûter aux avantages qu'ont les femmes de ne pas avoir de rémunération pendant certaines périodes ou même de ne pas pouvoir avoir certains avantages dans la hiérarchie pendant certaines périodes. Il va peut-être falloir que le monde de l'entreprise s'y adapte.
Raphaël Rémy Leleu, votre réponse à Martine. Et pourquoi pas, ouais, si les hommes prenaient les congés aussi longs après tout, dans les mêmes circonstances, peut-être que les perspectives changeraient, non ?
Oui, il serait temps, puisque en plus du monde de l'entreprise, c'est quand même un enjeu de société majeur que la responsabilité parentale soit partagée et ne pèse pas uniquement sur les femmes, à la fois pour des questions d'émancipation féminine, mais aussi parce que je pense que c'est tout à l'avantage des hommes de pouvoir exercer un rôle de père qui serait épanouissant. Et sur comment réagiront les entreprises, c'est sûr que si les congés sont aussi peu encadrés et valorisés qu'ils le sont aujourd'hui, la réaction sera assez mauvaise. Mais c'est pour ça que le féminisme est un progrès pour toutes et tous. C'est qu'on va continuer à faire en sorte que ces congés soient pris en charge, qu'il n'y ait pas de perte de salaire ou d'avancement dans la carrière, puisque c'est vraiment des dispositions également de retour à l'emploi après le congé maternité ou paternité qui sont importantes pour qu'on ne soit pas pénalisé d'avoir une vie de famille.
Brigitte Grésier, le congé paternité,
il n'est pas si long. Hein, alors, c'est 11 jours.
J'allais exactement vous demander ça. Ouais. J'allais vous dire ça. Et puis j'allais vous demander aussi d'ailleurs si, parce que maintenant que tout est ouvert, effectivement, aussi au père.
Il y a une confusion avec le congé parental.
Oui, avec le congé parental.
Voilà.
Mais j'allais vous poser la question. Maintenant que le congé parental est effectivement ouvert au père également.
Était déjà,
alors, mais est-ce que vraiment quelque chose s'est, non pas inversé, on ne peut pas exagérer, mais est-ce qu'il se passe quelque chose quand même auprès des pères dans les entreprises?
Non, parce que c'est une indemnité qui est quand même très très faible. C'est des arbitrages très compliqués. On sait que dans la majorité des couples, c'est les femmes qui gagnent moins que les hommes. Donc les arbitrages économiques font que c'est les femmes qui prennent les congés. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce renversement qu'on souhaitait avec, vous savez, cette période non transférable, etc. Ça n'existe pas. Mais il y a des études qui montrent que plus les pères s'engagent précocement dans le soin de l'enfant, plus ils joueront leur rôle de père tout au long de la vie.
Parce que la question en creux, c'est aussi que si tout ça est maintenu en l'état, si on pense effectivement que les femmes iront forcément en congé maternité à un moment ou à un autre et que ça rendra les choses compliquées, c'est aussi qu'on a toujours, mais tous collectivement, un tel schéma en tête, un tel schéma archaïque finalement, qu'on n'en sort pas en fait.
C'est un cercle vicieux, puisque les femmes ont de plus faibles salaires, du coup elles prennent les congés maternité, du coup elles n'évoluent pas dans la carrière parce qu'elles ont pris des congés maternité. C'est vraiment, on nous enferme dans un...
Tout à fait. Et moi je crois beaucoup à la notion de parentalité tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il faut lancer cette idée de parentalité. Mmh. Le salarié est toujours performant, jamais malade, ça n'existe pas. Il est toujours pris dans un réseau d'interdépendance et c'est les femmes qui jouent ce care. On a toujours un problème avec un enfant, un adolescent, un collatéral ou un parent âgé dépendant. Et donc il faut considérer que la parentalité, c'est pas une démission de l'entreprise, c'est un rééquilibrage de ce qui constitue un être humain.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et ça manque singulièrement d'hommes dans cette émission. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
On est ravis de vous accueillir et on vous écoute.
Et bonsoir à vos invités. Je constate qu'une fois de plus, l'État se complaît à voir la paille dans l'œil du privé. Nous, à l'Éducation nationale, dans le primaire, on a une profession qui est très féminisée. Donc l'État a choisi d'aligner le salaire des enseignants sur celui des enseignantes. Du coup, on a l'égalité. Et je me demandais quand l'État employeur serait en conformité avec les lois et avec le Code du travail, du moins ce qu'il en reste.
Votre réponse, Brigitte Grézy, d'abord, d'ailleurs, est-ce que le service public a quelque chose de vertueux ou pas ?
Alors, l'État devrait être exemplaire parce qu'il est normatif et prédictif. Hein, donc, voilà. Il a fait des gros progrès pour promouvoir les femmes dans les postes de responsabilité, mais il n'est pas encore exemplaire, très clairement, hein, au niveau des promotions, au niveau de l'accès aux postes de responsabilité, au niveau des primes. Si on analyse vraiment dans le détail, on n'en est pas encore à un équilibre au niveau de l'égalité.
Mais quand on fait la liste des entreprises qui sont vertueuses ou qui ne sont pas, qui jouent le jeu ou pas, moi j'en ai une de liste là, c'est celle de Marlène Schiappa hier, moi je vois pas d'entreprise publique là-dedans.
Ah non,
fait.
Non, c'était le baromètre.
Alors,
Ethics
on est d'accord.
Board, voilà, c'était le SBF 120, c'était donc les 120 premières capitalisations boursières.
Mais est-ce qu'on peut dire, dans le public, si on n'en parle pas, c'est que ça se passe mieux, ou dans le public, autant fermer les yeux parce que ça se passe ni mieux ni moins bien?
C'est un autre système. Hein. Donc il y a un suivi dans le public. Il se trouve que hier on n'en a pas parlé. Les entreprises publiques sont dans le champ, hein, mais pas évidemment ce qui est les ministères, la fonction publique, pour lequel on a mis en place pas mal de moyens nouveaux pour assurer l'égalité. Et là, je pense qu'il faudrait aussi peut-être faire un peu de name and shame.
De name and shame, donc de montrer...
Name and change.
Voilà.
And change, comme
ça veut dire
Marlène
qu'on
Schiappa.
Donne le nom et on dit, voilà, cette personne s'est mal comportée. Bonsoir Annie.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue dans le téléphone. Vous êtes sur le même thème et on vous écoute.
Oui, moi c'était effectivement pour apporter mon témoignage, pour dire que les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, c'est loin d'être l'apanage des secteurs privés, et que dans le public, il y a aussi de très grandes inégalités. Donc moi je travaille dans une collectivité territoriale de l'ouest de la France, où on constate des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour les cadres de l'ordre de 20%. Après, quand on est dans les catégories B et C, c'est un peu inférieur, 10 à 15%. Mais on est vraiment loin d'une égalité de rémunération. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire entendre, parce qu'on nous dit, mais non, le statut de la fonction publique garantit l'égalité entre hommes et femmes. Donc, il n'y a pas d'inégalité. Or, c'est pas ce qu'on constate dans les chiffres.
Annie, merci beaucoup pour votre témoignage. Raphaël Rémy-Leleu, je vous voyais opiner du chef. C'est quelque chose que vous entendez souvent, et dans le service public probablement particulièrement. Mais vous avez une grille, donc où est le problème? Il ne devrait pas y avoir d'inégalité.
Alors, il y a plusieurs mécanismes dans le public qui font que c'est plus compliqué. Puis, de toute manière, l'État, à ce titre-là, est presque un employeur comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se séparer de toutes les habitudes, tous les biais de l'éducation, du recrutement, également de simplement de la valorisation des domaines, hein, puisque ce sont les domaines les plus féminisés qui sont les moins valorisés. On a par exemple le mécanisme du jury pour l'avancement de la carrière dans la fonction publique, sauf que toutes les études le montrent.
Quoi le mécanisme du jury ?
On passe devant des jurys pour avoir un grade supérieur, pour passer une promotion, sauf que toutes les études le montrent, les jurys ont tendance à se reconnaître dans les candidats et à valoriser les candidats plutôt que les candidates quand des jurys de cadres supérieurs de la fonction publique sont constitués principalement d'hommes.
Tiens, une question intéressante, elle nous vient de Michel sur franceinter.fr. Je suis dans une grande entreprise française et j'en suis à mon troisième rattrapage de salaire au titre de l'égalité homme-femme. Et cela m'est présenté comme une augmentation. À quand des sanctions aux entreprises qui jouent avec les règles ? Un coup classique, visiblement, pour Michel, non ?
C'est-à-dire que les entreprises qui ne respectent pas l'égalité, c'est-à-dire qui évaluent qu'elles ont un écart de salaire de l'ordre de 3 ou 4%, font des enveloppes de rattrapage salarial. Mais c'est des enveloppes de rattrapage salarial. Donc, c'est des
augmentations. Donc, ça ne compte pas pour augmentation, on est d'accord.
C'est des augmentations qui sont liées à des inégalités constatées. Alors, il y a des sanctions. Hein, les sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale, qui sont imposées par la loi, si les entreprises n'ont pas négocié ou n'ont pas fait de plan.
Et l'interdiction de...
On n'a que 115 pénalités. Vous voyez, c'est pas énorme.
Alors, j'allais vous poser la question. 1%, effectivement, de la masse salariale, ça, c'est la sanction.
C'est
et aussi
maximum.
Pas d'accès au marché public, ça a été mis en place, ça,
absolument.
Ou pas?
Absolument. Alors, pas d'accès au marché public si on n'a pas signé un accord ou si on a un contentieux discriminatoire. Voilà.
Mais ça fait peur ou pas aux entreprises?
Ben,
ça fait
réfléchir. Nous n'avons pas évalué cette mesure. Nous n'avons pas, pour l'instant, les éléments d'information qui permettent de dire, ben, écoutez, voilà, tant d'entreprises n'ont pas été éligibles à tel appel d'offres parce que ils ne respectaient pas leurs objectifs. Légale. Donc ça, c'est le problème aussi des lois et des mesures, c'est que s'il n'y a pas l'instrument de contrôle qui va avec, on est très ennuyé. C'est pareil pour la féminisation des instances, enfin pour les conseils d'administration.
Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les grandes entreprises, par exemple, se disent oh ben 1%, moi je peux absorber ça en fait, donc je préfère l'amende plutôt qu'autre chose?
C'est assez compliqué parce que 1% de la masse salariale pour les grandes entreprises, c'est quand même
très
fort.
Oui, c'est pas mal,
fort.
Ça dépend du nombre de salariés.
Les 115 pénalités, près de 80%, c'est des PME. Parce que les grandes entreprises, elles ont des services RH et elles arrivent à faire des plans, elles n'ont pas de pénalités, les grandes entreprises. Et elles ont les moyens de travailler pour faire des plans. Alors ensuite, que ce soit suivi des faits, ça, il faut faire très attention. Une entreprise qui est très bonne en égalité peut être très sexiste. Hein. Il faut regarder.
Égalité en nombre
ne
veut pas dire égalité en salaire. Égalité en salaire ne veut pas dire égalité en nombre. Enfin, tout ça, c'est évidemment très compliqué.
Il y a des tas de domaines. Hein. À l'embauche, la promotion, la formation, etc. Il y a des tas de domaines où il faut regarder ce qui se passe.
On va écouter Thierry dans un instant. Une toute petite dernière question, Raphaël Rémy-Leleu. Le name and shame, comme on disait ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire d'afficher les entreprises qui ne jouent pas le jeu. C'est très anglo-saxon comme manière de faire. C'est une bonne idée ou pas? Ça peut leur faire peur aux entreprises? En tout cas, ça fait une mauvaise publicité et ça les arrange pas ou...
Tout ce qui est utile à faire progresser l'égalité en entreprise est bon à prendre. Après, je ne vais peut-être pas filer l'anglicisme, mais au-delà du name and shame, il faudrait déjà qu'on fasse respecter les lois, puisque continuer à vouloir faire de la prévention, bien sûr, c'est important. Après, que des entreprises qui sont connues comme étant défaillantes sur ces sujets-là et qui, du coup, exercent des formes de domination et de violence vis-à-vis de leurs salariés, il est aussi important qu'on les punisse. Pour le simple respect de la loi, j'aime beaucoup ce que disait Annie, l'égalité doit être une valeur du service public, donc ça devrait marcher. L'égalité est une valeur constitutionnelle, donc on ne devrait même pas avoir à se mobiliser pour tout cela, mais on sait que tous les moyens sont bons à prendre parce qu'on est loin du compte.
Alors loin du compte justement, et peut-être d'ailleurs loin du compte par rapport à d'autres. Bonsoir Thierry.
Bonsoir madame.
Et on vous écoute Thierry, allez-y, bienvenue sur Inter.
Pourquoi les femmes, mères d'enfants, travaillant en entreprise, sont-elles mieux considérées et mieux prises en charge dans les pays du Nord que dans les pays du Sud ?
Et ça, c'est une vraie bonne question, Thierry. Merci beaucoup. L'Islande, la Finlande, la Norvège, la Suède, tout ça, c'est des pays exemplaires par rapport à nous. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont
alors,
qu'on n'a pas?
Exemplaires, oui et non, parce que vous savez, les chiffres, faut se méfier. Par exemple, la Suède, effectivement, il y a 80% des hommes qui prennent leur congé parental, mais si on fait en équivalent jour de congé pris...
Attendez, 80% des hommes prennent leur congé parental en Suède?
Oui, mais nous, on a 80% des pères qui prennent leur congé de paternité, globalement, les 11 jours.
D'accord.
Donc, ils en prennent plus, parce que ça fait à peu près... Mais si on ça fait que 20% des jours ouvrés. Donc, vous voyez, 20% pour les hommes, 80% pour les femmes.
Mais qui est le plus vertueux autour de nous, par exemple, en Europe? Qui est le meilleur?
Non, c'est les pays du Nord, très manifestement. Mais regardez les femmes, par exemple... D'abord, on peut pas mettre les enfants à l'école avant un an, et elles sont majoritairement dans les métiers justement du service public, où les enjeux ne sont pas importants. Les hommes sont dans les entreprises privées. Donc, de toute façon, on retrouve des différentiels, même si la paternité est quelque chose de bien mieux porté dans les pays du Nord qu'elle ne l'est, parce qu'aujourd'hui, il y a une démission quand même collective des hommes à l'égard de leur responsabilité parentale. Et je pèse mes mots en disant démission, hein. C'est-à-dire qu'ils sous-traitent, hein, ils sous-traitent quoi, la part qui leur revient.
Vous êtes en train de faire rire, Raphaël Lemieux, vous êtes d'accord?
Alors que c'est pas le cas dans les pays du Nord. Moins le cas.
Malheureusement, oui. Et puis, ils sont encouragés à démissionner et à sous-traiter cette charge parentale. Je crois que la différence majeure, finalement, avec ces pays dits du Nord, c'est la prise de conscience sociale et les moyens publics qui y sont mis. L'égalité femmes-hommes, c'est une vraie boussole de l'action publique en Suède. Ça se voit dans les ministères, ça se voit dans les moyens donnés à l'égalité, que ça soit dans l'éducation, dans l'entreprise, ne serait-ce que la place de la ministre des droits des femmes dans la hiérarchie gouvernementale en Suède, on aurait beaucoup de choses à en tirer.
Est-ce que c'est à l'école, dans les crèches, enfin, ce qu'ils font pour promouvoir l'égalité aussi.
Est-ce que c'est vrai qu'en Islande, les Islandaises ont inventé la fameuse manifestation où on s'arrête de travailler lorsque on arrête d'être payé, en gros, par rapport aux hommes, est-ce que c'est vrai qu'elles ont réussi à contraindre à l'égalité salariale? On en est là en Islande?
Oui, alors il y a toute une série de lois en ce moment en Grande-Bretagne, en Islande et en Allemagne où effectivement ils vont travailler sur une transparence des écarts de rémunération. La notion de transparence est très importante, ça rejoint un peu le name and shame et c'est une directive européenne, donc on va bien être obligé de le faire nous aussi et voilà, on attend un petit peu. Et donc effectivement,
on attend souvent, hein, dans ces cas.
Là ils ont progressé, mais ça commence.
Puis c'est quand même assez terrible de se dire que c'est une contrainte, parce qu'il faut rappeler un principe de base, mais être payé au même salaire pour le même travail, c'est simplement être payé, finalement. Enfin, on est sur quand même des
principes... Ou un travail de valeur égale, absolument.
Élémentaire.
Et la question suivante, elle vient d'Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir, merci de prendre ma clé.
Je vous en prie, bienvenue dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Merci. Bonsoir à vos invités. Alors, en fait, je suis consultante, j'accompagne les entreprises à mettre en œuvre leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et en fait, j'ai envie de dire que je suis un peu inquiète parce que je vois arriver dans mes mails, comme quoi la réforme du travail va impacter les obligations des entreprises, contrairement à ce que disaient le président et la secrétaire d'État. Voilà, ça c'était ma question. Et sinon, je voulais juste faire un ajout à propos de l'intervention précédente, à propos de la mise en œuvre de la loi par rapport à l'accès au marché public. Alors moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est que les entreprises, on leur demandait pas, les entreprises à partir de 50 salariés, très généralement, les gens qui constituent et qui demandent les pièces de l'accès au marché public ne font pas attention à cette obligation-là. Mmh. Et puis, on retrouvera aussi... Pardon, oui. Et l'autre élément, c'est les obligations en matière de... Normalement, toute personne qui contribue à la formation continue devrait être formée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est un décret de 2008 et ça, c'est quasiment jamais appliqué. Merci de me répondre.
Isabelle, on va répondre à votre question sur la loi travail. Pardon, moi j'ai une curiosité. Quand on est consultante en égalité homme-femme, est-ce que les entreprises spontanément viennent vous demander votre avis et vous leur expliquer comment mettre tout ça en place, ou est-ce que vous y allez lorsqu'il y a eu sanction et qu'il faut mettre en place quelque chose?
Je suis entre les deux, j'ai envie de dire. Je travaille, en fait, je suis toujours dans des projets financés par le Fonds social européen. Et donc, il y a des compléments de financement, c'est toujours des... Donc, je suis en général financée par la directe, c'est-à-dire l'inspection du travail et les services des droits des femmes. Donc, j'articule toujours mon accompagnement, c'est moi qui propose d'accompagner des entreprises, parce que je m'appuie sur la sanction possible du 1%. Mais il y a aussi des entreprises qui me connaissent, parce que je commence à être connue dans la région où je suis.
et
vous leur faites peur, non?
Non, pas du tout. Le première fois, ils ont peur.
Ah.
Mais après, je sais rentrer dans les entreprises avec, en travaillant sur les stéréotypes, en venant pas donner une leçon de morale, mais en venant analyser le, en leur proposant des outils qui sont le diagnostic, le plan d'a et le plan d'action, voire la trame de l'accord. Et ça, les entreprises sont plutôt partantes une fois qu'elles sont... Si je suis pas venue faire une leçon de morale, ils sont d'accord, parce qu'on travaille sur les stéréotypes. Et surtout, ils s'aperçoivent qu'ils les reproduisent toujours.
Eh ben, merci.
Et ils sont pas fiers d'eux.
Eh ben voilà, ben c'est déjà ça de prix. Merci pour ce témoignage, Isabelle. J'oublie pas que vous aviez une question sur la loi travail. Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que c'est une inquiétude, ça? Est-ce que la loi travail... En gros, est-ce que plus de flexibilité, ça peut vouloir dire moins d'égalité encore dans l'entreprise?
Oh là, c'est, on est au-delà de l'inquiétude sur la loi travail. Hein. Aux Ailes Féminisme, on s'était déjà mobilisé contre la première loi travail.
Bien sûr.
Là, c'est la deuxième loi travail qui n'est même pas une loi et qui n'a même pas les mécanismes de contrôle et de vote qu'on a, les garde-fous qu'on a quand on a une loi, puisque là, on est sous un régime d'ordonnance. Il y a énormément de problèmes et c'est vraiment cette logique de flexibilité qui est souvent finalement une logique de précarisation, qui est une logique dite de mobilité, de libération des énergies, mais on nous fait croire que c'est neutre en termes de genre, que finalement une politique économique c'est impartial, c'est juste, c'est aveugle au genre, sauf que par exemple quand on renforce la précarité des temps partiels, qu'on augmente les mécanismes qui permettent à l'entreprise de décider unilatéralement des modifications d'horaire, ce genre de choses, il y a plus de 80% des postes à temps partiel qui sont occupés par des femmes. Donc il ne s'agit pas de travailleurs à temps partiel, mais de travailleuses majoritairement. De la même manière que là dans les ordonnances, on a quelque chose qui renverrait à la négociation en entreprise les droits familiaux. Et typiquement pour des entreprises comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure, où les femmes sont très minoritaires, on peut imaginer qu'un accord au sein de l'entreprise sur les droits familiaux ne serait pas très favorable à des femmes qui prendraient leur congé maternité puis leur congé parental.
Parce que moi j'ai lu, mais vous allez me contredire si vous le souhaitez, que l'indemnisation des congés maternité était sanctuarisée, que les jours enfants malades étaient sanctuarisés, que l'obligation de négocier aussi sur l'égalité professionnelle, que tout ça était sanctuarisé en fait.
En fait, une partie est sanctuarisée, mais c'est ce qui est drôle dans ce choix de mots, c'est une partie est sanctuarisée parce que le reste est renvoyé à des niveaux plus bas. Et pour un principe d'organisation de la vie sociale aussi important que l'égalité, c'est un vrai problème. On sanctuarise le nombre de jours, on sanctuarise l'existence des rapports et de l'évaluation. Mais par exemple, il va y avoir des modifications sur la durée. Au lieu de passer à des négociations triennales, elles vont pouvoir devenir quadriennales, sous certaines conditions, se faire directement par accord d'entreprise. Donc c'est vraiment un passage au niveau le plus bas et donc le niveau le moins favorable aux salariés, y compris dans les très petites entreprises.
Brigitte Grésier, un mot, puis on écoutera Marion dans un instant.
Oui, moi je veux parler du strict volant égalité professionnelle, négociation collective. Alors c'est vrai que là, je viens de rendre l'avis du CSEP en tant que secrétaire général et l'avis
Conseil supérieur d'égalité professionnelle.
Oui, pardon. Était que effectivement la plupart des dispositions du droit commun étaient renvoyées à des dispositions supplétives, ce qui fragilisait l'édifice, même si ils étaient d'accord sur le fait que donner plus de souplesse via l'accord de méthode qui permettait de créer une forme d'agenda social auquel les entreprises sont très 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 soucieuses d'adhérer pour des raisons d'opportunité. Mais il y a une autre lecture qui est faite actuellement de ces ordonnances, donc je pense que les relectures actuelles vont peut-être sécuriser juridiquement mieux, et qui est que le droit commun s'applique à l'entièreté du bloc égalité professionnelle. Donc là, pour l'instant, on a un petit gap entre des lectures différentes, et je pense que le texte qui va sortir permettra de sécuriser l'ensemble du bloc.
Ça devrait aller au-delà de l'entreprise, au-delà de la branche même, mais d'une manière très générale et pour chacun. Je voudrais qu'on écoute Marion. Bonsoir Marion, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais en fait intervenir, alors c'est pas forcément une question, c'est plus un point qui me semblait important. On parle beaucoup de la responsabilité de l'entreprise dans tout ça, et en aucun cas je ne veux la minimiser. Mais je pense qu'il y a toute une autre part, un autre point qu'il faut surtout pas oublier, c'est le rôle de notre société, de notre modèle, de nos valeurs et également du coup le rôle éducatif des parents sur le fait que à la base les choix de carrière et de métier faits par les filles dépendent évidemment de ce qu'on leur apporte, dans ce qu'on leur ouvre,
Et par ailleurs, pardon, excusez-moi.
Non, mais je vous en prie.
Justement, si
tendez-lui le micro.
Intervient. Voilà. pardon. Et la deuxième chose, c'est de la même manière, par rapport à la manière dont les filles, on est éduquées avec une... On doit être plus douce et attendre de faire nos preuves.
Je suis sûre que c'est un garçon parce qu'il vous empêche de parler. Oh, mais alors, enfin.
J'essaie justement de faire le nécessaire. Et donc, par ailleurs, derrière, au niveau de la première négociation au travail, et ensuite, dès lors qu'il y a des opportunités d'évolution ou de négociation, là aussi, les femmes, on va plus être, pour des questions d'éducation, dans un rôle où on va attendre de mériter d'être compétente pour une évolution, là où le garçon va être éduqué, où ben, au bout de 3 ans, il faut qu'il évolue, il faut qu'il ait l'augmentation, il y a une question statutaire. Et donc, il y a un vrai rôle aussi de la société, pas que de l'entreprise, mais de la société au sens large et du modèle éducatif dans lequel on s'inscrit, je pense.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, Marion, Raphaël, Rémi Leleu, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on est quand même très très formaté par beaucoup de choses et on a du mal à s'enlever ces oripeaux-là. Hein.
Bien sûr, c'est deux grands pans. C'est d'abord la socialisation, la mise en valeur de certaines compétences chez les femmes qui sont celles du care, hein, de la douceur, de l'empathie et une sorte de proactivité plus valorisée chez les hommes. Puis même, je crois qu'il faut vraiment adresser aussi la question de l'orientation. On le voit dès le lycée, il suffit de prendre les effectifs du baccalauréat littéraire face au baccalauréat scientifique, 90% de filles en baccalauréat littéraire, et ça emmène vers des sciences humaines, de la littérature, qui sont des matières importantes, je crois, pour nos sociétés, très dévalorisées, ultra féminisées et où les salaires sont les plus faibles.
Brigitte Grésier, est-ce que c'est vrai ce à quoi faisait allusion?
Oui, totalement. C'est-à-dire, l'entreprise, en fait, c'est le point final de toute une trajectoire, de toute une socialisation différenciée entre les filles et les garçons. C'est la crèche, c'est l'école, c'est les médias, c'est la vie dans la rue, etc. Et il faut vraiment reconnaître que les filles et les garçons ne sont pas fabriqués de la même façon. Il y a une fabrication différente des sexes, avec une binarité extraordinaire, mais qui fait que, du coup, même l'ambition des filles
n'est pas vous
travailler de la même façon.
Dans ce que disait Marion, c'est ce que j'allais vous demander. Quand elle dit, et ça a l'air assez juste en fait, une femme attend de sentir qu'elle est compétente pour prendre une promotion,
oui.
Quand l'homme se dit plutôt, ben, je vais le prendre et puis je verrai bien si je sais. C'est vrai ça, sincèrement?
Oui, ou c'est absolument. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce qui est très, très maintenant partagé. Hein, c'est-à-dire, les stéréotypes de sexe, ils agissent à la fois en termes d'exclusion d'autrui, le sexisme, c'est-à-dire je les utilise et j'exclus autrui, mais aussi ils fonctionnent comme auto-exclusion, c'est-à-dire je ne vais pas être capable de ça. Vous avez vu dans Le Monde, là, l'article qui montre que finalement, même les petits garçons, ils peuvent être très bons en lecture, mais ils sont victimes de stéréotypes de sexe. Et donc, l'ambition n'a pas été construite et les femmes ne se sentent pas légitimes dans la vie professionnelle.
Le syndrome de l'imposture.
Et surtout au plus haut niveau des postes de gouvernance.
Allez, Raphaël, Rémi Leleu, il nous reste 30 secondes, elles sont à vous.
En fait, ça démarre très très tôt, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter le terme d'autocensure, c'est une censure qu'on a apprise aux filles.
Bien sûr.
Et il faut relire également le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'éducation et les rapports différents dans l'éducation entre filles et garçons. Dès 6 ans, les petites filles se croient moins intelligentes que les petits garçons.
Voilà, il y a du travail.
Et alors, c'est là où la Suède nous aide, hein, notamment dans les crèches. Hein. Dans les crèches, on voit très bien comment se fabriquent différemment, dans le rapport aux jouets, dans le rapport aux activités, comment se fabriquent différemment les filles et les garçons.
Et ben voilà, c'est justement ce qui est en train de faire Marion. Tiens, notre dernière auditrice avec sa petite fille qui pleurait tout à l'heure près du téléphone. Je vous remercie 1000 fois pour votre participation. Merci à toutes celles qui nous ont appelées. Puis je vous signale que dans le 18-20, il n'y a que des filles. C'est tout, merci.